Bonsoir. Le secrétaire général des Nations Unies a effectué sa première visite de travail en RDC depuis qu'il occupe ce poste. Antonio Guterres a déclaré que la MONUSCO a contribué à éviter le pire en RDC. De son entretien avec le président Félix Tshisekedi, il retient l'existence d'une vraie volonté de mener des réformes afin que la paix revienne et que les richesses congolaises puissent bénéficier à la population. Le patron de l'ONU a également indiqué qu'une révision stratégique est en cours pour que la MONUSCO puisse travailler encore mieux afin d'éradiquer avec les FRDC les groupes armés qui écument la partie orientale de la RDC. Quelle lecture faire de ces déclarations? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce mardi 3 septembre 2019. Et pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat Maître Gabin Loulendou. Il est avocat, porte-parole adjoint de l'UNC et communicateur de la coalition Cap pour le changement. Monsieur Gabin Loulendou, bonsoir.
Bonsoir.
Mouindo Zangui, député et cadre du parti politique Mouvement Social, mais son sigle. Il est coordonnateur provincial pour le Nord Kivu de la Mouka et cadre d'ensemble pour le changement. Monsieur Zangui, bonsoir. Monsieur Mouindo Zangui, vous êtes en ligne? Je crois qu'on l'a perdu. La réalisation va essayer de le retrouver. Le professeur Moïla Tshiembé, directeur de l'Institut panafricain des géopolitiques de Nancy en France. Professeur Moïla, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Merci de nous suivre à Goma, dans la province de Nord Kivu, sur la 105.2. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
La MONUSCO a un rôle très important à jouer en RDC. C'est le secrétaire général de l'ONU en visite dans le pays qu'il a déclaré dimanche lorsqu'il s'est exprimé sur l'avenir de cette mission de maintien de la paix à partir de la commune rurale de Mangina en territoire de Beni. Antonio Guterres dit compter sur le Conseil de sécurité pour le renouvellement du mandat et la revue stratégique de la MONUSCO pour la rendre plus utile au peuple congolais. On l'écoute au micro de Martial Papi Mukeba.
C'est une décision naturellement du Conseil de sécurité, mais c'est mon avis que la MONUSCO a un rôle très important à jouer en RDC. Un jour, naturellement, ce sera possible que la MONUSCO puisse fermer ses portes, comme ça s'est passé au Libéria, au Côte d'Ivoire et dans d'autres pays qui ont résolu leurs problèmes. Pour le moment, je crois qu'on doit faire une révision stratégique qui est en cours pour améliorer ce que la MONUSCO fait, pour la rendre encore plus utile au peuple congolais dans tous les domaines, sécurité, mais aussi dans le domaine politique. Et en améliorant cette action de la MONUSCO, je compte sur le Conseil de sécurité pour qu'on puisse renouveler le mandat avec les ajustements considérés nécessaires. Mais il y a une chose qui est évidente quand on parle avec les Congolais. Même les Congolais qui sont critiques sur l'action de la MONUSCO, tout le monde voudrait que la MONUSCO puisse faire plus, surtout dans le domaine sécuritaire. Même ceux qui sont critiques, tous reconnaissent que sans la présence de la MONUSCO dans cette région, on serait dans une situation bien plus difficile.
C'était là le secrétaire général de l'ONU au micro de Martial Papi Mukeba. Maître Gabin Loulendou, je rappelle que vous êtes avocat et porte-parole adjoint de l'UNC, communicateur de la coalition CASH. Quelle lecture vous faites de la visite du secrétaire général de l'ONU en RDC?
La visite du secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, il est venu réconforter les pays qui font face à la maladie à virus Ebola, ce qui est une très très bonne chose lorsque vous recevez une visite de ces niveaux-là, et surtout une visite de réconfort pour un pays qui est confronté à ce genre de problèmes. Obtenir une visite de plus haut niveau du secrétaire général des Nations Unies, ça ne peut que nous réjouir, et du coup, chacun de nous se sent donc réconforté par cette visite. Et aussi, les propos qui ont été tenus par le secrétaire général des Nations Unies, ce sont des propos pleins d'essence et surtout pleins de responsabilités, dans la mesure où il reconnaît que la MONUSCO doit faire encore un peu plus, et surtout l'idée de revoir la stratégie mise en place jusque-là pour répondre aux attentes de Congolais, à savoir la paix sur la partie orientale de notre pays, et surtout le fait qu'il reconnaît qu'avec les changements intervenus, l'alternance démocratique intervenue en RDC, c'est un souffle nouveau. Donc, bref, nous saluons cette présence ou cette visite en RDC, et surtout, nous sommes d'accord avec lui sur l'ensemble, l'essentiel de ce qu'il avait dit, même si on estime que le moyen dont dispose la MONUSCO aurait pu faire plus, malheureusement, comparé aux moyens dont elle dispose, l'action de la MONUSCO a été quand même bien mitigée quand on regarde le moyen mis à sa disposition et les résultats. Mais on ne peut pas ne pas reconnaître qu'il y a beaucoup de soldats de maintien de la paix qui ont trouvé la mort en République démocratique du Congo dans la recherche de la paix. Et c'est pour cette raison que nous disons, ne pas reconnaître cela, ce serait l'ingratitude, mais en même temps, nous devons avouer aussi que par rapport aux moyens mis à sa disposition, la MONUSCO n'a pas fait de loin mieux.
Maître Gabin Lulendo, le secrétaire général des Nations Unies a déclaré que la MONUSCO a contribué à éviter le pire en RDC. Vous êtes d'accord avec lui?
Bon, vous savez, les informations sécuritaires, ce sont des informations qui ne sont pas très très partagées. Sûrement que, en tant que secrétaire général des Nations Unies, il a eu certains rapports confidentiels sur la situation réelle en République démocratique du Congo, et qu'effectivement la MONUSCO, la présence de la MONUSCO, en matière de respect des droits de l'homme.
On a un petit souci avec votre ligne, essayez de bouger pour améliorer la qualité.
Je dis, il est clair que si la MONUSCO n'avait pas été là, compte tenu des problèmes auxquels le pays a été confronté, peut-être qu'on aurait assisté au pire. Vous savez que notre pays a traversé une zone de turbulences en termes de violation de droits de l'homme. La présence de la MONUSCO a été quand même un élément important, dans la mesure où les informations en ce qui concerne la violation de droits de l'homme, les informations étaient donc récoltées, documentées et même publiées, ce qui permettait en même temps de dissuader ceux qui se livraient à ces genres de choses, dans la mesure où ils pouvaient faire bien l'objet des poursuites au niveau de la Cour pénale internationale pour des violations graves ou massives de droits de l'homme. Donc de ce point de vue, on peut dire que si la MONUSCO n'était pas là, et même aussi sa participation pour essayer d'atténuer les effets de groupes armés dans la partie orientale de notre pays, il est aussi clair que si la MONUSCO n'était pas là, le résultat aurait pu être encore beaucoup plus catastrophique. C'est pour cette raison que nous saluons quand même la présence de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Et nous voulons quand même qu'elle puisse continuer, mais tout en changeant fondamentalement ses stratégies pour répondre aux besoins de Congolais, en savoir la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national, en appuyant le force de l'ordre, le force de sécurité de la République démocratique du Congo en termes de logistique, en termes des renseignements.
Est-ce que ce n'est pas déjà ça? Est-ce que ce n'est pas déjà le travail que fait la MONUSCO, appuyer les FARDC?
Oui, la MONUSCO le fait, mais est-ce qu'elle le fait suffisamment? C'est ça la question importante qui mérite d'être posée. Une situation comme Béni, les territoires de Béni, si on concentre l'essentiel, on concentre les forces à Béni, là où il y a, on vient, on tue, on s'en va, on vient, on tue, on s'en va, si on concentre les forces de l'ordre à Béni, et surtout avec l'appui de la MONUSCO en termes des renseignements, en termes de la logistique, je ne vois pas pourquoi la situation pourrait bien, que la situation peut perdurer à Béni. Donc on a constaté quand même que les choses ont été faites, mais n'ont pas été suffisantes. C'est pour cette raison qu'il faut maintenant redéfinir les choses pour que, dans le meilleur délai, le plus rapidement possible, nos compatriotes de la partie orientale de notre pays retrouvent la paix, pour penser au développement socio-économique de notre pays dans son ensemble et en particulier dans la partie orientale de notre pays.
Merci Maître Gabin Loulendo Mwindo Nzangi. Je rappelle que vous êtes député et cadre du parti politique Mouvement Social MS en sigle. Vous êtes coordonnateur provincial pour le Nord Kivu de Lamouka et cadre d'ensemble pour le changement. Quelle lecture avez-vous fait de la visite du secrétaire général de l'ONU en RDC?
Merci beaucoup et je salue tous les invités de Radio Okapi. Je voudrais d'ailleurs dire que pour nous, nous sommes en tout cas très encouragés par cette visite, puisque vous savez que depuis très longtemps, il a cherché à venir, mais le régime qui est passé n'a pas voulu qu'il vienne. C'était important pour nous qu'il vienne aussi s'enquérir de la situation sur le terrain. C'est une visite de réconfort et moi je suis est très frappé par le fait qu'il est allé directement au Nord Kivu, à Beni, pour palper des doigts la situation qui se retrouve là-bas. Je crois que lui-même a vu et il a vu les limites de ce que c'est le mandat de protection des civils. Je voudrais aussi souligner, avant de donner mes points de vue, que la MONUSCO, dans un contexte donné, a joué un rôle capital pour le retour de la paix dans ce pays. On ne peut pas ne pas ignorer que lorsque le pays était divisé, et qu'on ne pouvait pas se rendre à cette époque-là. On ne pouvait pas se rendre, quitter de Kinshasa pour aller à Goma ou à Butembo ou à Beni, à Kisangani. La MONUSCO a joué un rôle très important. Et c'est grâce aux efforts de la communauté internationale et à l'accompagnement de la MONUC à cette époque que le pays a été pacifié et ainsi de suite.
On peut dire que la RDC serait dans une situation beaucoup plus difficile sans la présence de la MONUSCO.
En tout cas, sans la présence de la MONUSCO, à cette époque-là, on aurait pu passer des moments très difficiles. Et je voudrais souligner que la MONUSCO a développé, en dehors de cette mission de maintien de la paix, d'autres services qui sont capitaux pour la population. Il y a des zones où il n'y a que la MONUSCO pratiquement qui arrive avec ses hélicoptères. Il y a des zones où il n'y a pas la présence de l'État, où la MONUSCO, la présence de la MONUSCO ou des forces de la MONUSCO rassure la population, et ainsi de suite. Mais maintenant, qu'à cela ne tienne, si on doit faire une évaluation objective, surtout de la mission militaire de la MONUSCO, on sent effectivement que la MONUSCO, cette mission militaire, aujourd'hui, elle n'a plus sa raison d'être. Je l'ai dit parce que l'évaluation du travail qui a été fait sur le terrain par les éléments de la MONUSCO, elle est dans une courbe très négative. Je prends la situation du Nord Kivu, je prends la situation du Sud Kivu, vous allez au-dessus de la population à la place de la MONUSCO. Alors qu'ils ont un mandat, notamment de cette force d'intervention de la MONUSCO, la FIB, qui a un mandat offensif clair pour lutter contre les groupes armés étrangers et nationaux, seuls ou avec l'accompagnement des FRDC, mais il ne le faut pas. Il ne le faut pas.
Ils ne le font pas. Pourquoi, selon vous, est-ce que ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas cette franche collaboration avec les FRDC?
Alors, je vais y aller. Il ne le faut pas, puisqu'il ne faut pas leur travail. C'est la première raison. Puisqu'en fait, même sa collaboration avec les FRDC, ils ont le mandat de pouvoir agir. Ils ne pouvaient pas laisser des groupes armés comme les EDF ou les autres attaquer des paisibles citoyens qu'ils sont censés protéger par les mandats de protection des civils et ne pas agir, ne pas prendre des initiatives avec tous les moyens qu'ils ont, avec les drones, avec les hélicoptères de guerre, avec les avions de guerre dont ils disposent et des hommes au sol. Ils ne pouvaient pas assister ou laisser la population se faire massacrer.
Ils sont quand même dans un pays souverain, armés. Ils ne peuvent pas prendre des initiatives sans...
Je vais y arriver. On doit quand même faire une bémol qu'en grande partie à cause de ce climat épais délétère entre l'ancien régime et la MONUSCO, on a senti effectivement que le gouvernement congolais a fait des actions très négatives à l'encontre de la MONUSCO et des actions pour empêcher à cette MONUSCO de pouvoir collaborer directement avec l'armée, notamment les FRDC. Nous le savons par exemple qu'on a déployé dans des zones de combat ou des zones où ils sont censés collaborer, des officiers qui sont pointés par des rapports des droits de l'homme, donc pour lesquels la MONUSCO ne pouvait pas collaborer, des officiers sous sanction, et ainsi de suite. Tout cela a peut-être entamé le climat de confiance entre les FRDC
et la MONUSCO, ce qui a occasionné une méfiance entre les deux unités qui n'a pas rendu efficace la MONUSCO. Mais je rappelle que la MONUSCO a un mandat et il doit s'attenir à ce mandat-là. Et dans le mandat militaire qui lui a été accordé, notamment avec la création de la FIB, ce mandat-là lui donne la possibilité de pouvoir agir seul devant des groupes armés et non pas avec les FRDC. Donc, on ne peut pas justifier l'absence de l'efficacité des unités de la MONUSCO sur terrain seulement par le fait qu'il n'y a pas eu une grande collaboration avec les FRDC, puisqu'ils ont déjà eu dans le passé, par exemple avec la question avec les M23, ils ont eu à agir à Kiwanja ou à Rutshuru seuls, sans même demander l'avis ou la coordination des FRDC. Ils pouvaient continuer à le faire, mais c'est qu'on sent sur terrain, moi ce que je sens sur terrain, c'est vraiment une léthargie au point que aujourd'hui on peut même tuer des gens en présence de la MONUSCO, sans que la MONUSCO ne puisse faire une réaction appropriée.
Merci Mouindo Nzangi, professeur Maïla Chiembe, directeur de l'Institut panafricain de géopolitique de Nancy en France. Professeur, comment vous analysez cette visite du secrétaire général de l'ONU en RDC?
Ben, on peut dire que la visite du secrétaire général des Nations Unies s'inscrit dans un cadre plus ou moins nouveau. Vous savez, madame, qu'avec l'ancien gouvernement, l'ancien pouvoir du président Kabila, à un moment donné, les Nations Unies ont été considérées à tort ou à raison comme un gouvernement aussi.
Allô, professeur? Je crois qu'on a un souci avec la ligne du professeur Moïla. La réalisation, on va essayer de le retrouver, mais en attendant de retrouver le professeur, Maître Gabin Loulin, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kinshasa.
Grâce Mongo Manzongo, l'EITE depuis Kinshasa. Parfois, le peuple congolais ne maîtrise pas les objectifs principaux de la MONUSCO en RDC, car la base de son existence, c'est la sécurité. Le renouvellement de son mandat après 18 ans prouve en suffisance que son travail n'était pas exécuté. Donc, on pouvait lui accorder une autre chance car elle n'a pas été en mesure de parvenir à mettre un terme à une situation de crise qui perdure depuis plusieurs années dans notre pays. D'ailleurs, elle devrait appuyer les autorités congolaises dans la protection des populations civiles. Mais il est visible que chaque jour, les civils ne cessent de mourir et surtout à l'est du pays. Après une expérience de 18 années en RDC, et si responsable de la MONUSCO qui se sort échanger, la sécurité, la situation politique et humanitaire continuent à battre de l'aile. Si cet organisme de l'ONU a réalisé ses objectifs en RDC, oui, c'est vrai, mais elle s'est occupée des objectifs spécifiques en minimisant les objectifs fondamentaux. Merci.
Maître Gaba Loulendo, qu'est-ce que vous en pensez? Il estime que la MONUSCO s'est occupée des objectifs voilà, spécifiques plutôt que fondamentaux.
Bon, mais je ne sais pas ce qu'il entend par objectif spécifique, ce qu'il entend par l'objectif fondamentaux. Toujours est-il que quand vous regardez très bien les missions qui sont reconnues à la MONUSCO, de mon point de vue, ce sont des missions qui sont à la fois fondamentales, à la fois spécifiques. Bon, toujours est-il que, vous savez, on ne peut pas rejeter toute la responsabilité à la MONUSCO. Notre gouvernement, surtout, il a été fait état des relations qui étaient tendues entre la MONUSCO et le gouvernement ancien gouvernement, bien sûr, de notre pays. Et quand vous avez un pays qui est souverain et vous avez une mission des Nations Unies qui vient pour exercer sa mission sur un territoire d'un pays souverain, s'il n'y a pas une bonne coordination, il n'y a pas une bonne entente, il est bien difficile que la tâche de la MONUSCO ne pouvait qu'être difficile. Je voudrais quand même vous donner un petit exemple. On vous dit par exemple, c'est des rapports d'ailleurs bien documentés qui les disent, que vous avez des officiers militaires qui étaient en connivence avec les groupes armés et qui fournissaient même les matériels leur destinés à combattre le groupe armé à ce groupe armé. quand il y a une telle complicité, à telle enseigne que les munitions ainsi que d'autres objets pour pouvoir combattre les groupes armés étaient à la disposition de groupes armés, du fait bien évidemment des officiers militaires de notre propre armée, suivant des rapports bien documentés, vous voyez que dans ces conditions-là, la méfiance ne pouvait que s'installer. Et vous savez que le secrétaire général des Nations Unies a le rôle de pouvoir protéger le personnel des Nations Unies. Et quand vous êtes dans une situation comme ça, c'est toujours très très délicat à pouvoir régler le problème. Moi, je dis ici, il n'est pas question de dire que toute la responsabilité revient à la MONUSCO. La première responsabilité de sécuriser les personnes et de leurs biens, c'est d'abord un rôle qui revient au gouvernement.
Merci.
À telle enseigne que toute autre structure qui pourrait intervenir avec l'aval de ce gouvernement, ça ne peut qu'être un appui, même s'ils peuvent agir seuls. Et quand vous agissez seul et que vous ne connaissez pas en réalité qui est votre ennemi, ça pose toujours un problème.
Merci.
Vous dites, oui, ce sont des groupes armés, mais si ces groupes armés sont en connivence avec les officiers, comme cela avait été dit dans les rapports, ça ne peut que compliquer la tâche de la MONUSCO. Je ne suis pas là pour disculper la MONUSCO. Elle a sa part de responsabilité. Elle pouvait mieux faire, mais il faut aussi reconnaître que notre gouvernement, en tout cas avec l'ancien régime, n'avait pas pleinement assumé son rôle et surtout que beaucoup des militaires étaient aussi accusés d'être impliqués dans tout ce qui se faisait dans la partie orientale de notre pays.
Merci, Maître Gabaloulendo. On me signale que le professeur est en ligne. Professeur Moïla, rebonsoir.
Rebonsoir, madame.
Alors, j'ai posé la question de savoir comment vous analysez la visite du secrétaire général des Nations Unies en RDC.
Ben, disons que la visite du secrétaire général des Nations Unies se déroule dans un climat nouveau. Le nouveau président, au nom de la diplomatie de la porte ouverte, considère que les contentieux anciens, notamment celui qui opposait l'ancien régime de président Kabila à la MONUSCO, souvenez-vous que à la suite des rapports répétés sur les violations des droits de l'homme réels ou supposés, le gouvernement congolais avait considéré que la MONUSCO était devenue un danger pour le gouvernement lui-même. Résultat, la coopération militaire entre les deux entités avait été totalement interrompue. Et dans la mesure où les Nations Unies, la République démocratique du Congo n'est pas un État sous mandat des Nations Unies, il est quasiment impossible de voir la MONUSCO déployer les forces sur le territoire de la République démocratique du Congo d'une manière irréversible sans l'accord préalable de ce gouvernement. Dois-je rappeler qu'en matière de défense et de sécurité, même s'il y a une force extérieure, c'est la force des Nations Unies qui avait été demandée à corps et à tête par le gouvernement congolais, il y a à tout le moins un besoin de coordination stratégique entre le commandement en chef du gouvernement congolais, donc le président de la République, son état-major et les différents échelons de l'armée, pour pouvoir coordonner avec l'état-major de MONUSCO les actions qui peuvent être menées. Donc à la suite de ces différends, la quasi-totalité des activités de la MONUSCO, notamment en ce qui concerne les groupes armés, avaient été totalement abandonnées. Alors maintenant que les choses ont changé, et les choses ont également changé, non pas parce que le président Tshisekedi est élu, mais la nature même de la conflictualité a changé. Et je m'explique, les ADF Nalu étaient toujours considérés comme une rébellion depuis. Or, aujourd'hui, le gouvernement congolais, il y a plus d'un an ou deux, a considéré que les ADF Nalu relevaient du terrorisme. Or, lorsqu'on parle de terrorisme, la chose change totalement de nature. Et selon la résolution 1313 du Conseil de sécurité, en cas de menace terroriste, nous sommes face à la menace à la paix et à la sécurité internationale. Donc les États peuvent lutter les armes à la main au nom de l'article 50e de la Charte, c'est-à-dire la légitime défense, seul un État ou avec ses alliés. Donc les propos du secrétaire général des Nations Unies peuvent être placés dans le cadre de cette nouvelle optique. Du moment où la République démocratique du Congo fait face au terrorisme et que le secrétaire général a eu l'intelligence de poser la question tactique et stratégique, c'est-à-dire s'il y a une révision stratégique et tactique dans l'emploi de la force contre les ADF Nalu et le FARDC et la MONUSCO, il est tout à fait possible que demain les choses puissent changer. Et d'ailleurs, il faut rappeler que lorsque la MONUSCO a coopéré, notamment sa brigade armée avec les FARDC, le M23 a été vaincu. Donc il y a là une perspective qui paraît plausible si elle est utilisée de part et d'autre avec la bonne foi. Là où il y a la bonne volonté, il y a un chemin. On peut espérer que, avec le nouveau gouvernement, avec le nouveau chef de l'État et la nouvelle configuration sur place, on est sorti de mouvements essentiellement rebelles à un mouvement terroriste. Tout porte à penser que s'il y a une collaboration réelle, militairement parlant, entre les FARDC d'une part et la MONUSCO d'autre part, il est possible que les adeptes Nalo soient vaincus, les armes à la main.
Alors, certains Congolais estiment que le discours du général, du secrétaire général de l'ONU s'est déjà entendu plusieurs fois. L'ONU a fait ce genre de discours pour dire qu'on va revoir la stratégie pour essayer de mettre fin à l'activisme des groupes armés en RDC. Mais 18 ans après, il y a toujours cette existence des groupes armés. On n'arrive pas à éradiquer ce phénomène du Congo. Vous pensez que cette fois-ci, ça serait la bonne?
Cette fois peut-être la bonne, madame. Vous faites allusion à l'opinion générale des Congolais. Vous savez, madame, les Congolais, il y a bien sûr une opinion dans un état démocratique qui est partagée entre l'opposition et la majorité. Mais les Congolais qui tiennent ce langage sont les mêmes au nom du nationalisme congolais, patriotisme oblige, qui considère que la MONUSCO, la République démocratique du Congo, n'est pas un État sous mandat des Nations Unies. Ce sont les mêmes. Mais comme souvent ils n'ont pas la raison, avec eux, tout au long de cette analyse, ils disent à la fois le pour et le contre. Les choses sont contraires. Il est vrai que les forces de la MONUSCO, compte tenu de leur composition, madame, savez-vous que les grands pays militaires, les États-Unis, la France et j'en passe des meilleurs, n'envoient plus leurs forces pour combattre, notamment dans les conflits internes des États comme la République démocratique du Congo. Nous avons la force constituée, et je rappelle encore en passant, que l'ONU n'a pas sa propre force. Les États n'ont pas voulu donner à l'ONU sa propre force. Résultat, chaque fois qu'il y a des problèmes de maintien de la paix, l'ONU fait appel aux États membres. Et les États membres ne donnent les forces que celles qu'elles veulent bien donner. Donc je veux dire que la qualité des soldats se trouvant sur le territoire de la République démocratique du Congo, leur équipement, leur capacité à se battre, ce n'est pas essentiellement l'affaire de la MONUSCO. C'est même c'est l'affaire de la qualité des forces mises à la disposition des Nations Unies par les États membres. Si ces soldats n'ont jamais tué même un lézard dans leur propre pays, lorsqu'on les met à la disposition de la République démocratique du Congo, bon sang, on ne veut pas faire des miracles. Là où existe une réalité, il faut le dire, parce que beaucoup de Congolais ne le savent pas. La MONUSCO ne veut pas faire les miracles, elle fait ce qu'elle peut avec les soldats mis à sa disposition.
Merci, mais professeur.
La question de maintien de la paix ou de la sécurité à l'intérieur de la République démocratique du Congo, madame, c'est d'abord une affaire de l'armée nationale, de la police nationale. Le Congo est un État souverain, il faut encore le rappeler.
Merci, professeur Moïla Chiyembe Moindo Nzangi. On va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient d'Isangi.
Je m'appelle Jacques Defonga, depuis Isangi, province de la Tchopo. Même si le bilan de la MONUSCO est mitigé 20 ans après son existence, mais on ne peut pas souhaiter son départ brutal et prématuré, car notre propre armée n'a pas de moyens suffisants pour lutter contre les attaques de ces groupes négatifs à l'est du pays. Raison pour laquelle je demande aux autorités congolaises de capitaliser les déclarations pertinentes et fondamentales de M. Antonio Guterres, même si certains peuvent les banaliser. Vraiment, actuellement, sur le plan sécuritaire, la RDC a besoin d'aide ou soutien international au regard de la gravité et de la recrudescence des attaques mortelles des terroristes à l'Est et de l'inefficacité qu'accuse les FARDC sur le terrain. Toutefois, je réalise qu'un renforcement de la coopération et de collaboration avec la MONUSCO doit être envisagé en redéfinissant le rôle et la mission de cette dernière.
Honorable Mouindo Nzangi.
Oui, il a tout à fait raison. Ce que nous avons toujours dit que si notre pays avait une armée capable de faire face aux menaces, on ne parlerait plus de la MONUSCO. On aurait un même langage. Concernant la MONUSCO, on ne peut pas accepter d'avoir une force étrangère sur notre sol si nous avons une armée qui est capable de nous défendre. Si nous en parlons aujourd'hui, c'est puisqu'effectivement, depuis le passé récent dans notre pays, nous avons une armée, nous avons des services qui ne sont pas capables de faire face à cette grande menace, la menace notamment des groupes armés étrangers et des groupes armés nationaux sur nos populations. Alors, il dit une chose, et c'est important de le savoir. Il dit que voilà, on doit capitaliser les messages des... Et je suis vraiment heureux. On doit capitaliser les messages du secrétaire général des Nations Unies. Mais il faut qu'on sache aujourd'hui dire quels sont les points positifs de la présence des troupes de la MONUSCO sur notre territoire et les points négatifs. Puisqu'en fait, nous, quand nous sommes sur terrain, ce que nous voyons effectivement, c'est que voilà, la MONUSCO, on est à Beni dans les opérations, on n'a pas d'hélicoptère de guerre. Puisque les FARDC ne savent pas demander à l'État congolais d'acheter des hélicoptères de guerre, puisqu'ils savent que la MONUSCO a des hélicoptères de guerre. On ne sait pas capaciter nos militaires par rapport à certaines opérations, par exemple les ravitaillements dans les zones de combat, puisqu'on sait que lorsqu'on en aura besoin, la MONUSCO va devoir le faire. Est-ce que la présence des troupes de la MONUSCO, la présence de la logistique de la MONUSCO, n'est pas en train de créer une léthargie qui ne permet plus à notre gouvernement de pouvoir poser des actions pour se renforcer? Puisque dans tous les cas, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira par apparaître. À un moment donné, la MONUSCO partira. Est-ce que ce n'est pas le temps pour nous de dire, préparons-nous, préparons notre armée, formons notre armée, équipons notre armée, pour que demain, ou même aujourd'hui, notre armée soit capable seule de pouvoir s'occuper des problèmes. L'Angola, il y avait la mission des Nations Unies là-bas avec les troupes. Ils sont partis même avant la fin de la guerre, puisque leur armée a été capable à cette époque-là de mettre fin elle-même à cette guerre-là. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et je reviens sur ce que le professeur Moïla a dit. C'est important de le souligner aussi. Nous avons des troupes. Nous avons vu nous-mêmes l'efficacité des troupes sur le terrain. Moi, je suis du nord que vous. J'ai accompagné les opérations contre les M23. Il y a les troupes de la brigade d'intervention qui étaient des Malawites notamment et des Tanzaniens. Ils s'étaient très bien comportés sur le terrain. Lorsqu'il y avait des menaces, ils réagissaient de manière très claire. Mais il y a d'autres troupes, les Népalais, Bangladesh. On a l'impression que des Indiens. On a l'impression qu'ils viennent vraiment des pays où il n'y en a jamais eu la guerre. Où on se pose des questions si réellement c'est des militaires. Puisque à une petite attaque, ils sont à des bandades. Ils laissent même les chars de combat sur les routes. Alors que les autres, et c'est des combattants qui se battent. Donc cette question posée par... Quelle est la qualité des militaires qu'on envoie ici? Tout ça, on devrait le savoir. Puisque si on nous envoie des gens qui ne savent pas se battre, qui n'ont pas de forêt, alors que nous avons des combats de forêt ici... Ils ne viendront pas se battre.
Ce sera difficile pour
eux. Et pendant les dernières attaques ici, nous avons tout fait pour essayer de contacter la MONUSCO, de faire quelque chose, notamment à Beni. La réponse qui a été donnée, c'est de dire que voilà, beaucoup de pays, notamment la Tanzanie, qui a perdu beaucoup de militaires sur les sols de bataille, ils se disent voilà, tant qu'il n'y a pas un engagement clair de la RDC, des FARDC pour lutter contre les groupes armés, notamment les EDF, nous n'allons pas faire une aventure avec nos unités qui ne sont pas très nombreuses, qui ne sont venues qu'en appui, pour aller seul dans les opérations de combat. Et c'est là que nous interpellons notre gouvernement, en disant que voilà, il faut faire attention. On ne redemandera pas éternellement à la MONUSCO de rester. D'ailleurs, moi, je suis aujourd'hui plus favorable que la MONUSCO, en tout cas les hommes des troupes, on essaie d'avoir un calendrier clair pour leur départ. Je crois que c'est ça qui créera l'émulation pour que nous-mêmes, nous commencions à créer nos propres capacités logistiques, nos propres capacités de récupération de nos corps sur les terres, nos propres capacités de renseignement, que de compter tout le temps sur des renseignements de la MONUSCO.
Alors, brièvement, de son entretien avec le président Félix Tshisekedi, le CG, le secrétaire général de l'ONU, retient l'existence d'une vraie volonté de mener des réformes afin que la paix revienne et que les richesses congolaises puissent bénéficier à la population.
Alors, moi, je vais seulement reprendre ce que la Mouka lui a dit. nous avons été déçus, le peuple congolais a été déçu qu'à la fin des dernières élections, les Nations Unies ou la MONUSCO même présente ici n'ont pas réussi à pouvoir faire triompher la volonté du peuple. Et ça, c'est pour cela que la MUCA lui a suggéré qu'aujourd'hui, nous avons au Congo des institutions qui donnent la légitimité et mise à cause par les peuples congolais à la suite des élections bâclées qui ont pourtant eu le soutien de la communauté internationale. Merci. Il faut qu'on fasse les réformes. Il faut que la communauté internationale, qui s'est impliquée même dans la suite, fasse accepter à ceux qui dirigent aujourd'hui de faire des réformes. Les Merci. Réformes de la CENI, les réformes de la Cour constitutionnelle, pour qu'on puisse demain avoir des élections qui respectent la volonté du peuple.
Merci, Mouindo Nzangi. Professeur Moïse, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Lubumbashi.
C'est Patrick Mbouli, Kassama depuis Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Hormis les déclarations diplomatiques du secrétaire général de l'ONU, sa présence dans ce pays ne changera rien sur l'action de la MONUSCO. Il est vrai que cette organisation internationale a joué un rôle important qui a évité le craquement du Congo. Mais depuis un long moment, la MONUSCO brille par son incapacité à étouffer les multiples massacres des civils dans le Grand Kivu. D'autant plus que cela est l'une de ses missions. On peut changer plusieurs fois la mission de la MONUSCO et rien ne changera. Le Congolais a beaucoup souffert, il n'a plus besoin de flatteries. Et le gouvernement congolais qui crie tout haut sur la souveraineté de la RDC, il doit travailler dans le sens de son développement, mener de grandes réformes sérieuses et rien attendre d'un quelconque appui de qui qu'il soit.
Professeur Moïla, on a perdu encore une fois le professeur Moïla. Gabin Loulendre, j'aimerais que vous puissiez réagir au propos de Mouindo Zangi sur la rencontre entre le président Félix Tshisekedi et le secrétaire général de l'ONU qui retient l'existence d'une vraie volonté de mener des réformes afin que la paix revienne et que les richesses congolaises puissent bénéficier à la population.
Bon, mais j'ai dit tout simplement à l'honorable Mouindo Nzangi que le peuple congolais est content de l'élection du président Félix Tshisekedi. Donc, quand il parle de la légitimité, je ne sais même pas de quoi il parle, parce que quand on regarde comment les choses se sont passées, et en tout cas un processus qui certainement n'était pas parfait, qui avait quelques problèmes de dysfonctionnement, mais au regard des résultats, on se rend compte que le peuple congolais est attaché à son président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Donc, du coup, il n'y a pas un problème de légitimité auquel lui fait face. Ce que je voudrais aussi lui dire, c'est que il faut absolument retenir que à ces stades, faire partir le troupe, les hommes de troupe, comme il les appelle ainsi, c'est quand même assez dangereux, parce qu'en même temps, il reconnaît que nous ne sommes pas encore très bien préparés logistiquement, et pour lui, il dit que ce serait une émulation, très bien, mais si, en attendant que nous puissions bien préparer nos troupes logistiquement, il faut pas qu'il y ait un vide. Moi, je pense qu'aujourd'hui, hier, il manquait un problème de vraie coopération entre la MONUSCO et le gouvernement de l'ancien régime, ce qui n'est pas le cas avec l'actuel régime qui est en place. Une vraie coordination peut se mettre en place pour se focaliser en termes de mobilisation de troupes, en termes des renseignements civils et militaires, etc., pour réussir ainsi à sécuriser nos compatriotes dans la partie orientale de notre pays, en particulier à Beni. Donc, moi je dis, la MONUSCO n'a pas à tout faire, il appartient au gouvernement de prendre ses responsabilités, mais profitons encore de la présence de la MONUSCO pour régler le problème, pour que la paix et la sécurité reviennent sur l'ensemble des territoires nationaux.
Merci, monsieur le maître Gabin Loulendo. Professeur, est-ce que vous êtes en ligne?
Ben, je suis avec vous, madame, je m'excuse, là, il y a eu coupure tout à l'heure. J'ai pas bien entendu la fin de l'intervention de votre correspondant de Lubumbashi.
Alors, le correspondant de Lubumbashi estime que les déclarations diplomatiques du secrétaire général de l'ONU ne vont rien apporter de nouveau sur l'action de la MONUSCO en RDC. Pour lui, c'est plutôt la RDC qui doit travailler dur dans le sens de son développement, de mener des grandes réformes sérieuses et rien attendre de la communauté internationale ou de qui que ce soit.
disons qu'il il a à la fois tort et raison. Il a raison lorsqu'il dit que la réalité du pouvoir, comme la réalité de l'action amenée contre les groupes armés à l'est de la République démocratique du Congo, relève de la souveraineté nationale de la République démocratique du Congo. Donc, qu'il s'agisse des actions de police ou de l'armée, la République démocratique du Congo, il faut le répéter, ce n'est pas un État sous mandat des Nations Unies. Les Nations Unies sont intervenues militairement sur la demande d'un État souverain, la République démocratique du Congo. Donc, de ce point de vue, il a raison de dire que la tâche primordiale reviendrait à la République démocratique du Congo. Il faut souhaiter que le président Tshisekedi mette en œuvre la réalité de la réforme de l'armée. Il y a une réforme qui a été amorcée, globale et spécifique. C'est à lui maintenant de prendre à bras le corps cette réforme de l'armée pour la conduire minutieusement avec ses acteurs internes, donc la mobilisation du pays tout entier, et ses acteurs externes, c'est-à-dire les pays de la coopération. Et on pense que de ce point de vue-là, c'est la compétence exclusive du gouvernement congolais. Alors maintenant, le deuxième aspect, là où il a tort, c'est de considérer que les propos du secrétaire général ne changent rien. Non, le monde a changé. Nous sommes face à une riposte qui doit être faite contre le terrorisme, qui est considéré comme un fléau international et une menace à la paix. Tout porte à penser que si le président de la République présentait les choses de la même manière que le secrétaire général des Nations Unies, tout porte à penser que la coalition mondiale contre le terrorisme peut s'impliquer et que si elle s'impliquait, même la dimension militaire, la capacité des soldats à se battre, les moyens de ces soldats pourraient changer. Et probablement, on peut voir d'autres forces se joindre au groupe actuel qui constitue la MONUSCO.
Alors, professeur, le député Muhindo Nzangi estime qu'il faudrait que la MONUSCO se retire pour pousser le gouvernement à faire des grandes réformes et à bien outiller notre armée pour faire face à ces groupes armés qui sèment la désolation dans la partie est du pays. Ça sera aussi votre conclusion?
Non, il faut lui dire qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il est vrai que la MONUSCO n'est pas efficace jusqu'à ce jour pour des raisons que nous avons invoquées, mais il ne sert à rien d'aller dans une mésaventure. La force de FARDC n'est pas encore acquise. Il serait imprudent de faire partie de la MONUSCO alors que la force nationale n'est pas encore au point. Donc il faut faire les deux choses, à la fois remettre la MONUSCO les pieds à l'étrier, c'est-à-dire à l'endroit, voir son dispositif militaire, stratégique et tactique, remettre à ses côtés les FARDC stratégiquement et tactiquement.
Merci.
Tout porte à penser que si ceci était fait, les choses peuvent changer durablement.
Merci, professeur Moïla. Muhindo Nzangi, votre conclusion en quelques secondes.
Et moi, je crois qu'on doit se renforcer et puis, bon, on doit tout faire quand même que pour que ceux qui sont vraiment là pour la mission, qui est très touristique comme les troupes là que j'ai dit, il faut qu'ils partent quand même. Mais le départ ne sera pas d'un seul coup, il faut un départ progressif puisqu'il y a d'autres unités de la MONUSCO qui peuvent, dans les premiers temps, accompagner les FARDC à faire leur travail.
Merci, Muhindo Nzangi. Maître Loulendou, votre conclusion.
Mais ce qu'on va dire, c'est que nous allons continuer à travailler avec la MONUSCO parce que nous avons besoin de la MONUSCO pour le moment, de telle sorte que le problème auquel nous sommes confrontés puisse être réglé en pleine coopération avec le gouvernement congolais.
Merci Maître Gavin. C'est la fin de cette émission. Bonne suite de programme pour la fréquence de la paix.